au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission. Il vient de recevoir le prix Del Duca 2008. D'origine péruvienne, il compte dans son œuvre une trentaine de livres, dont des ouvrages de renommée internationale. Entre romans traditionnels et modernité, littérature pour élite et romans populaires, l'œuvre de Mario Vargas Llosa est égale à celui qui se dit à la fois libéral et contestataire. De tous ses ouvrages, on connaît L'orgie perpétuelle, Pantaléon et les visiteuses, ou encore La maison verte. Canal Académie choisit aujourd'hui trois extraits pour illustrer son œuvre, tous lus par Fernand Guillot. Vous allez écouter dans un premier temps un extrait du roman Les Chiens, paru en 1963, et décrivant l'oppression de la discipline subie par des jeunes gens et en même temps le sentiment de liberté qui souffle sur la ville.
Il jouait jusqu'à 5 heures à peine, car le secondaire sortait alors et les grands nous chassaient du terrain de gré ou de force. La langue pendante, couvert de poussière et suant. Il reprenait livre, veste, cravate, et nous sortions dans la rue. Il descendait par la diagonale en faisant des passes avec les cartables. « Bloque ça, pépère !» Nous traversions le parc à hauteur de l'As Delicias. « J'ai bloqué, t'as vu mes mères ?» Et chez Donofrio, à l'angle de la rue, nous achetions des cornets à la vanille, panachés. Mais en un peu plus, l'ami, triche pas, un petit peu de citron, radin, avec un chouïa de fraise. Et il continuait à descendre la diagonale, le violin gitano, sans parler, la rue Porta, absorbée par leur glace, un feu rouge, flap suçant flap, et débouchant sur l'immeuble de San Nicolas, où Cuellar les quittait. « Allons, pars pas tout de suite, viens au Terrazas. Il demanderait la balle aux Chinois. Ne désirait-il pas faire partie de l'équipe de la classe? Allez, vieux, pour ça il fallait s'entraîner un peu. Allons, radine-toi, seulement jusqu'à 6 heures. Une partie de mini-foot au Terrazas, Cuellar. » Oh, il pouvait pas. Son papa ne lui permettait pas. Il avait ses devoirs à faire. Il l'accompagnait jusque chez lui. Comment allait-il entrer dans l'équipe de la classe s'il ne s'entraînait pas? Nous finissions par aller tout seuls au Terrazas. Un bon gars, maître bûcheur, disait Fufu. Pour ses études, il néglige le sport. Et Lalo, c'était pas sa faute. Son vieux devait être emmerdeur. Et Ouistiti, sûr, il mourait d'envie de venir avec eux. Et Marlou, ce sera dur de le faire entrer dans l'équipe. Il n'avait ni le physique, ni la guibole, ni la résistance. Il se fatiguait tout de suite, ni rien. Mais il avait un bon coup de tête, disait Fufu. Et puis, c'était notre supporter. Il fallait le mettre à tout prix, disait Lalo. Et Ouistiti, pour qu'il soit avec nous. Et Marlou, oui, nous allons le mettre. Mais qu'est-ce que ça allait être dur?
Je vous propose d'écouter à présent l'extrait d'un roman paru en 1981 et intitulé « La guerre du monde ».
Il parlait de choses simples et importantes, sans regarder personne en particulier dans la foule qui l'entourait, ou plutôt regardant de ses yeux de braise à travers le cercle de vieillards, femmes, hommes et enfants, quelque chose ou quelqu'un que lui seul pouvait voir. Des choses que l'on comprenait parce que obscurément connues depuis des temps immémoriaux et apprises dès la plus tendre enfance. Des choses actuelles, tangibles, quotidiennes, inévitables, comme la fin du monde et le jugement dernier qui pouvait peut-être bien arriver avant que le village eût le temps de relever les ruines de la chapelle. Que se produirait-il quand le bon Jésus verrait dans quel abandon l'on avait laissé sa maison? Qu'allait-il dire de l'attitude de ses pasteurs qui, au lieu d'aider le pauvre, vidait ses poches en lui faisant payer les services de la religion. La parole de Dieu pouvait-elle se vendre? Ne devait-elle pas être donnée gratis? Quelle excuse donnerait-il au père, ces pères qui, en dépit du vœu de chasteté, forniquaient? Pouvait-il peut-être inventer des mensonges aux yeux de qui lisait les pensées, comme le chasseur lit dans la terre le passage du jaguar? Des choses pratiques, quotidiennes, familières, telles que la mort qui conduit à la félicité si on l'aborde avec une âme propre, comme une fête. Les hommes étaient-ils des animaux? S'ils ne l'étaient pas, ils devaient franchir cette porte ornée de leur plus bel habit en signe de respect pour celui qu'ils allaient rencontrer. Il leur parlait du ciel et aussi de l'enfer, la demeure du chien pavée de braises et de crotales, et leur disait comment le démon pouvait se manifester étrangement sous un visage inoffensif.
Pour finir, un troisième extrait tiré d'un essai paru en mai 2008, « La tentation de l'impossible, Victor Hugo et les Misérables », dans lequel Vargas Llosa analyse la littérature de Victor Hugo et va jusque dans les moindres détails de la vie de l'écrivain.
En cette année 1950, à l'internat de l'école militaire Leoncio Prado à Lima, l'hiver était humide et gris, la routine abrutissante et notre vie assez malheureuse. Les aventures de Jean Valjean, l'obstination de Limier de Javert, la sympathie de Gavroche, l'héroïsme d'Enjolras, effaçaient l'hostilité du monde et muaient la dépression en enthousiasme au fil de ces heures de lecture dérobées au cours et à l'étude qui me transportaient dans un univers flamboyant et excessif de malheur et d'amour, de bravoure, de joie et de vilenie. La révolution, la sainteté, le sacrifice, la prison, le crime, des hommes qui étaient des surhommes, des femmes vierges ou putains, saintes ou perverses, toute une humanité attentive aux gestes, à l'euphorie, à la métaphore. S'y réfugier était un grand réconfort. La vie splendide de la fiction donnait la force de supporter la vie misérable. Mais la richesse de la littérature rendait plus pauvre aussi la réalité réelle. Qui fut Victor Hugo? Après avoir passé ces deux dernières années plongé corps et âme dans ses livres et son époque, je sais maintenant que je ne le saurai jamais. Jean Marcovas, le plus méticuleux de ses biographes à cette date, sa biographie est encore inachevée, a calculé qu'un bibliographe passionné du barde romantique en s'y attelant 14 heures par jour mettrait quelque 20 ans à seulement lire les livres de la Bibliothèque nationale de Paris consacrés à l'auteur des Misérables. Car Victor Hugo est, après Shakespeare, l'auteur occidental qui a engendré le plus d'études littéraires, d'analyses philologiques, d'éditions critiques, de biographies, de traductions et d'adaptations de ses œuvres sur les 5 continents. Ce titan de la lecture, combien de temps mettrait-il à lire les propres œuvres complètes de Victor Hugo, y compris les milliers de lettres, de notes, de papiers, de brouillons, encore inédits, qui pullulent dans les bibliothèques publiques et privées et chez les antiquaires du monde entier? Pas moins de 10 ans, et à condition que cette lecture soit son unique obsession dans la vie. À qui se penche sur cet univers sans fond, la fécondité du poète et dramaturge emblématique du romantisme en France donne le vertige. Sa précocité le disputait à sa puissance de travail et à cette terrible facilité à faire jaillir de sa plume rime, image, antithèse, trouvaille de génie et ronflante boue. Sa précocité le disputait à sa puissance de travail et à cette terrible facilité à faire jaillir de sa plume rime, image, antithèse, trouvaille de génie et ronflante bouffissure. Avant d'atteindre les 15 ans, il avait déjà écrit des milliers de vers, un opéra comique, le mélodrame en prose Ignace de Castro, le brouillon d'une tragédie en 5 actes et en vers, Athélie ou les Scandinaves. Le poème épique Le Déluge est esquissé des centaines de dessins. Dans une revue qu'il édita adolescent avec ses frères Abel et Eugène et qui ne dura qu'un an et demi, il publia 112 articles et 22 poèmes. Il maintint ce rythme affolant tout au long de sa longue vie, de 1802 à 1885, qui embrasse presque tout le XIXe siècle, et laissa à la postérité une telle masse d'écrits que personne, sans doute, ne les a lus ni ne les lira jamais d'un bout à l'autre. On pourrait croire que la vie de quelqu'un qui a produit des tonnes de papier barbouillé d'encre et dû être celle d'un moine laborieux et sédentaire, confiné dans son bureau des jours et des années durant, sans lever le nez du pupitre où son inlassable main usait les plumes et vidait les encriers. Mais il n'en est rien. Extraordinairement, Victor Hugo a fait de son vivant presque autant de choses que celles que lui dictaient son imagination et sa parole, car il a eu une des existences les plus riches et les plus aventureuses de son époque, dans laquelle il plongea la tête la première, en s'arrangeant toujours avec un flair de génie pour se trouver au centre de l'histoire vivante comme un protagoniste ou témoin d'exception.
Les textes que vous venez d'entendre, lus par Fernand Guillot, reprenaient des extraits de l'œuvre de Mario Vargas Llosa, prix Del Duca 2008.